Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Une heure pour vous informer et vous exprimer. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international. Bonjour, Jeanne Bartoli.
Et bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous. Dans ce journal, Marco Rubio est arrivé ce matin à Istanbul avant la tenue annoncée dans la journée de pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Le secrétaire d'État américain qui a déclaré hier soir ne pas nourrir de grandes attentes sur ces discussions dont le format reste flou, en l'absence notamment de Vladimir Poutine. On fait le point dès le début de ce journal. Dans ce journal aussi, reportage en Syrie, après l'annonce de la dissolution du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan en conflit avec la Turquie. À Alep, les habitants des quartiers kurdes espèrent que cela ouvrira la voie à une véritable paix avec le voisin turc. Dans l'actualité également, le Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra interpellé ce matin à l'aube chez lui. Et puis l'accès aux preuves enjeu du nouveau procès contre le méga projet pétrolier de Total Energy en Ouganda devant le tribunal judiciaire de Paris. Ce sera dans 1h30, selon la diplomatie turque. À Istanbul, les délégations russes et ukrainiennes se retrouvent donc pour discuter en l'absence de Vladimir Poutine, qui a refusé de se rendre à Istanbul. Américains et Turcs devraient participer donc à ces discussions. Le format, lui, reste flou. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, est arrivé ce matin en Turquie. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour.
Vincent, on peut le dire, ces discussions, les premières depuis le printemps 2022, semblent mal engagées.
Oui, les dés sont pipés car l'absence de Vladimir Poutine, on sait que ces rencontres n'iront pas très loin. Il n'y a d'ailleurs à ce stade pas de véritable réunion prévue entre Russie et États-Unis, mais un simple tête-à-tête entre un cadre du département d'État américain et le numéro 1 de la délégation russe. Délégation de seconde zone, d'après les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky a été très clair là-dessus hier. Et si lui a mandaté son ministre de la Défense pour mener les discussions, c'est, a-t-il dit, par respect pour Donald Trump et pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les Ukrainiens soulignent aussi que pour représenter la Russie, Poutine a choisi son conseiller Vladimir Belinsky, un faucon qui était déjà aux manettes en 2022 lors du seul chapitre de négociations directes entre Kiev et Moscou depuis le début de la guerre. Négociations qui déjà à l'époque n'avaient absolument rien donné. Difficile d'imaginer une quelconque avancée d'ici la fin de la semaine et surtout depuis les propos de Donald Trump qui a discrédité d'une phrase tout ce processus. Le président américain estime que rien ne se passera tant que Poutine et lui ne se seront pas rencontrés. Et il fait savoir à l'instant, Jeanne, qu'il rencontrera le président russe dès qu'il sera possible d'organiser cet entretien.
Vincent Souriau du service international d'RFI. On continue de parler de la Turquie. L'armée turque continuera ses opérations contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, jusqu'à ce que la région soit nettoyée. Déclaration hier du ministère turc de la Défense après l'annonce en début de semaine de la dissolution du groupe armé kurde présent principalement dans le nord de l'Irak. Le PKK présent également en Syrie où l'annonce de la dissolution fait réagir. À Alep, dans le nord du pays, les habitants des quartiers kurdes espèrent que cela ouvrira la voie à une paix durable avec la Turquie. Reportage Manon Chaplin.
Sur la place des martyrs de Shah Maksoud, des estrades, des drapeaux et trois grandes photos. Celle d'Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK. Celle à ses côtés de deux leaders martyrs du parti. Mariam est venue ici pour rendre hommage à l'organisation suite à l'annonce de sa dissolution.
Avant l'apparition du PKK, on n'avait même pas le droit de dire qu'on était kurde. On ne pouvait pas parler notre langue. La rhétorique d'Öcalan a ouvert les yeux sur notre situation. Cela a permis aux Kurdes d'avoir un certain prestige. Nous sommes fiers du PKK.
Sur un muret criblé de balles, un groupe de jeunes hommes, eux, ne croient pas qu'une solution politique permettra de résoudre le vieux conflit entre les factions armées kurdes et la Turquie.
Cela fait des années que nous avons régulièrement des martyrs, que nous allons nous battre dans les montagnes. C'est une erreur de déposer les armes. Nous devons continuer à nous battre.
La rue qui fait face à l'appartement de Mohamed porte les nombreux stigmates de la guerre avec les factions pro-turques. Son frère est mort dans les années 90 après avoir rejoint la guérilla armée kurde en Turquie, mais aujourd'hui...
Je suis content, car nous avons combattu pendant des décennies sans résultat. Notre vie était compliquée, beaucoup de nos jeunes partaient rejoindre la guérilla. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons résolu le problème par la voie politique.
Nouri Cheko, coprésident du conseil local du quartier.
Cette initiative va aussi nous influencer en tant que Kurdes syriens. J'espère que les leaders turcs vont comprendre qu'il faut un vrai processus de paix.
Un accord signé en mars prévoit l'intégration des institutions kurdes au nouvel État syrien d'ici à la fin de l'année. Lundi, Damas a averti les Kurdes que tout retard risquerait de prolonger le chaos après 14 années de guerre dans le pays. À Alep, Manon Chaplin, RFI.
Et la coalition kurde FDS qui contrôle jusqu'ici le nord-est syrien ne s'est pour le moment pas prononcé. L'actualité, c'est aussi les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. La défense civile palestinienne annonce la mort de 50 personnes dont des frappes cette nuit sur le nord de l'enclave. Dans l'actualité aussi, le Tchad, l'ancien premier ministre Succès Masra, interpellé ce matin à l'aube chez lui, le domicile du président du parti d'opposition, les Transformateurs, a été investi par des dizaines d'hommes armés, membres des corps de défense et de sécurité qui l'ont amené vers une destination inconnue, annonce à RFI les lieutenants de Succès Masra. Ils ajoutent que le motif de son enlèvement n'a pas été communiqué. À l'écoute d'RFI, 10 heures passées de 6 minutes, c'était en juin 2023, 6 ONG et 26 plaignants ont signé Total Energy dans le cadre d'une deuxième action en justice pour engager la responsabilité de la multinationale et obtenir des réparations dans le cadre des expropriations et des manquements aux droits humains du grand projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Hier à Paris se tenait une audience importante pour les ONG qui réclament l'accès aux preuves. Les ONG demandent la communication à Total Energy d'un certain nombre de documents. Il s'agit par exemple de formulaire sur l'évaluation des terres et des cultures des plaignants ou la remise dans leur entièreté de documents qui avaient été caviardés, Charlotte Cossé.
Total Energy plaide la transparence et la bonne foi. Les éléments caviardés n'auraient pas de rapport avec la procédure en cours, assurent les avocats de la major. Certains documents ne se trouvent pas au siège de Total, mais entre les mains des filiales, poursuivent-ils. Cette demande serait donc une diversion des ONG afin d'éviter le débat sur le fond. Pas du tout, répond Maître Aurélie Boulbin, l'une des avocates des ONG et plaignant sur ce dossier depuis l'année dernière.
On pense que ces documents sont vraiment essentiels. On n'est pas là dans des rapports théoriques sur ce qui était théoriquement prévu de faire au regard des normes internationales. Non, on est là pour voir ce qui a été fait concrètement sur le terrain et comment les gens ou ont pas été négativement impactés par ces projets.
Selon la défense de Total Energy, les plaignants chercheraient également à renverser la charge de la preuve, Maître Aurélie Boulbin.
Nous, on est au tribunal pour faire du droit et pour, en l'état de la loi 2017, déterminer si Total, dans le cadre des projets ICOP et Tilanga, a ou non respecté ses obligations au titre du devoir de vigilance. Et cette loi, elle ne dit pas grand-chose sur l'accès aux preuves. Et donc, nous, on compte sur le tribunal et sur le juge de la mise en état pour décider elle-même ce qu'il est important que le tribunal ait pour être suffisamment éclairé.
Après avoir écouté les plaidoiries, la juge a demandé des précisions, restées parfois sans réponse. Elle a rappelé les conséquences qui seront tirées si le caviardage rendait les documents illisibles. Par exemple, les conseils de Total Energy n'ont pas souhaité faire de commentaires à notre micro.
Et le délibéré a été renvoyé au 3 juillet prochain. Enfin, en France, après l'annonce de près de 600 suppressions de postes, le groupe ArcelorMittal promet finalement d'investir 1,2 milliard d'euros dans l'Hexagone. Objectif affiché, construire un four électrique sur son site de Dunkerque pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Juste à côté, également dans l'agglomération de Dunkerque, une autre usine de métaux investie pour réduire ses émissions de CO2, elle s'appelle Aluminium Dunkerque. Justine Fontaine est partie en reportage.
Ils vont passer par la passerelle.
Juste avant d'entrer, on aperçoit le port où est déchargé l'alumine. Puis nous voilà dans un grand hangar.
Bienvenue en fonderie, à la fonderie d'aluminium Dunkerque.
Au fond, l'aluminium liquide, rouge, déjà fondu. Et devant nous, le nouveau four, le 8e. À première vue, pas très différent des autres. 4 mètres de haut, 10 mètres de large, avec une gigantesque porte en métal.
Oui, oui, il ressemble au four d'à côté. La différence, elle est pas en face, en fait. Elle est sur les côtés.
Hélène Debout, chargée de projet recyclage, nous montre des tuyaux qui entrent dans le four, chargés en gaz et en oxygène. Par rapport à un four industriel classique, la consommation d'énergie est réduite de 30%. Guillaume De Goys est le président d'Aluminium Dunkerque.
C'est un four qui va permettre de produire 20 000 tonnes d'aluminium supplémentaires chaque année. 20 000 tonnes supplémentaires, c'est à peu près 8% de notre production. C'est un investissement de 13 millions d'euros. Donc les lingots que nous allons produire sont principalement à destination du secteur automobile.
10 emplois ont été créés sur un peu plus de 700 salariés déjà en poste. Autre particularité de ce four, il sert en partie à recycler de l'aluminium, une nouveauté pour le groupe. À l'échelle du site, chaque lingot fabriqué émettra ainsi 10% de gaz à effet de serre de moins qu'avant. Justine Fontaine, Dunkerque, RFI.
10h10 à Paris, tout de suite c'est Juan Gomez.
Avec les auditeurs de RFI, merci Jeanne Bartoli.